Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, avec vous pendant deux heures un petit peu particulières, entre 10h et 11h, quelques-uns des meilleurs moments de l'émission. Et puis à partir de 11h, on vous propose une émission autour des sondages. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Peut-on croire les sondages? Comment sont-ils faits? Tout cela, ce sera à partir de 11h. Mais je vous propose de réécouter Miss France, Vaimalama Chavez. Voilà, je l'ai bien dit. Nous aurons également Antoine Decaune, qui était venu nous parler de la Gaule d'Antoine. Elena Noguera, qui nous parle de sa carrière Bruno Solo. Et on va commencer avec le docteur Jean-Michel Cohen, qui était venu nous parler de sa chaîne YouTube et de son livre « Mieux manger pour les nuls », paru aux éditions First. L'invité du jour, c'est Jean-Michel Cohen, le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel Cohen.
Bonjour tout le monde.
Valérie. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre nouveau livre, Mieux manger pour les nuls. C'est dans la célèbre collection Pour les nuls, aux éditions First. Tout ce qu'il faut savoir pour une meilleure alimentation, une meilleure santé. Alors ça, pour tout savoir, on va tout savoir parce qu'il y a exactement 540 pages. Donc c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. Mais en fait, aujourd'hui, je suis rentré dans un système éducatif, c'est-à-dire que je considère que notre mission, c'est moins de donner une feuille de papier avec des régimes que plutôt essayer d'instruire les gens et leur faire en sorte qu'ils s'approprient toutes les connaissances en termes de nutrition. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que le livre est aussi gros. Je donne tous les renseignements sur la nourriture et sur les régimes aussi.
Alors justement, on vous connaît bien, on vous a beaucoup vu à la télévision. On vous retrouve chez Valérie Benaïm sur C8 deux fois par semaine.
Deux fois par semaine
dans C'est que de la télé. Et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est une nouvelle manière de communiquer, de s'adresser aux gens. Et c'est là-dessus aussi que je voulais vous entendre. On va parler nutrition, mais sur la manière de s'adresser au plus grand public. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le message, il passe par là ?
Dans mon histoire, vous savez que j'ai appris à maîtriser Internet et le web seulement en 2007, alors que ça existait depuis 95. Et à ce moment-là, j'avais découvert un nouveau monde quand on a créé le site Savoir Maigrir. Et il y a un an, je me suis rendu compte que la vraie caisse de résonance, elle était beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur le smartphone. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne. Sauf que quand vous intervenez sur les réseaux sociaux, la parole, elle est différente selon le réseau social. Par exemple, si vous allez sur YouTube, c'est une population qui est entre 15 et maintenant 45 ans. Il faut leur parler beaucoup plus simple, beaucoup plus détendu, beaucoup plus convivial. J'interprète ça, j'utilise ce mot à escient, parce que interpréter, c'est le cas de dire, puisque je suis face à une caméra, cette fois-ci en solitaire, c'est comme une émission de télé, mais avec un style différent. Quand je suis sur Instagram, c'est une population jeune également, encore aujourd'hui, mais qui va monter en âge. Et là, elle aime les photos, les histoires, donc je le fais. Et sur Facebook, la population est un peu plus âgée, et là, je fais plus d'instructions. Donc, j'arrive à faire le jeudi à 20h et le dimanche à 18h30. J'occupe les réseaux sociaux, mais mon intention, c'était aussi de montrer que dans ma mission, j'étais capable de faire du gratuit. On m'a dit à un moment donné, oui, c'est une machine à faire du fric, le site, Savoir Maigrir. Non, non, non. C'était un truc vraiment intelligent, ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, je montre qu'on peut faire du gratuit, et je le fais, et ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me passionne. Donc,
Et c'est passionnant, parce que vous avez toujours des histoires, la margarine blanche, là, c'était votre dernière vidéo.
La margarine blanche, les pains, etc. J'apprends aux gens à décrypter. Ouais. Or, qui peut faire ça aujourd'hui?
Mais est-ce qu'on n'est pas surinformé? C'est aussi une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est assez informé sur la nutrition? Il y a un peu un paradoxe. Alors, on a l'impression qu'on en sait trop et en même temps, on se pose plein de questions.
Ce matin, avant d'arriver chez vous, avec Rémi, avec Gaspard, avec vous...
Gilles,
pardon, je ne sais pas pourquoi vous avez une tête à vous appeler Gaspard. Excusez-moi. Donc Gilles, j'en tiens Gilles.
Non.
Et j'ai regardé sur Facebook, donc pour voir les messages que j'avais. Et au passage, sur le bandeau déroulant, j'ai vu des informations de bidulesanté.fr, de nutritionbidule.fr, etc. Que des conneries. Et en fait, moi, mon avantage par rapport à eux, c'est que je suis connu comme étant un expert, donc ça me permet de crédibiliser mieux ma parole. Et donc, mon information, elle est meilleure. Je le vois au succès qu'on remporte. Sur les lives, quand je les fais par exemple en direct, il y a à peu près 1500 à 2000 personnes qui m'écoutent et 4 jours plus tard, il y en a entre 20 et 25 000 qui ont reçu le message. Donc j'estime que je remplis ma mission quand je fais ça. Après, j'en tire un bénéfice personnel dans la mesure où j'aime faire ça. Même quand j'étais à la faculté, j'aimais enseigner. Donc
et
ça me fait plaisir. Et transmettre. Donc je prends mon pied. Il n'y a jamais de trucs illégaux.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on a trop ou pas assez d'informations.
Je pense qu'on en a trop de fausses et j'approuve l'attitude qui consiste à lutter contre les fake news. C'est trop de choses conneries, de conneries.
Est-ce que justement on n'a pas un problème de crise de confiance pour le public qui a l'impression qu'on passe son temps à le baratiner, à lui dire, je parle des producteurs, à lui dire ça c'est sans gluten, ça c'est sans ceci, ça c'est sans cela. Et au fond, effectivement, il ne sait plus comment s'y retrouver et il ne sait plus où trouver la bonne information, celle à laquelle on peut faire confiance.
Les chiffres parlent dans ce sens, Rémi. Ça veut dire que quand je vois que chaque fois que j'ai fait des vidéos, elles sont vues 20 à 30 000 fois, quand je vois que sur YouTube, j'approche des 150 000 abonnés, quand je vois qu'il y a 100 000 personnes sur Facebook, etc., je vois bien que les gens, ils cherchent la parole d'expert. Donc là, j'ai un rôle à jouer. Là, ceux qui ne jouent pas le rôle, c'est un, ceux qui diffusent les informations et ceux qui acceptent qu'on utilise leur réseau de diffusion. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, sans compter que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre ce qui est marketing et ce qui n'est pas marketing. Je vous donne l'exemple du bio à l'heure actuelle. Il y avait une part...
Donnez l'exemple de la pâte à tarte. J'ai vu cet exemple.
Oui.
Pâte à tarte bio.
Alors, la pâte à tarte bio, elle n'a rien de bio dans cette pâte à tarte, mais elle est étiquetée bio parce qu'elle bénéficie du label bio. Le consommateur, il va acheter.
Mais pourquoi il a un label bio alors qu'il n'y a rien de bio ?
Parce que si sa farine est bio, il va le donner, mais il va mettre suffisamment d'ingrédients pour transformer le produit, il aura l'autorisation, le fabricant va la vendre plus cher, le consommateur a payé plus cher un produit qu'il aurait pu avoir avant. Donc, ce que j'étais en train de...
Mais expliquez, mais il faut vous expliquer pourquoi ce que vous démontrez sur l'arnaque, entre guillemets, du label bio, c'est qu'effectivement, la farine est peut-être bio, sauf qu'il y a de l'huile de palme dedans. Donc, quand on veut acheter un produit bio, on n'a pas forcément envie qu'il y ait de l'huile de palme dans le produit.
C'est exactement
ça. C'est
qu'on
vous dit, ouais, ça c'est bio, mais de l'autre côté, vous avez une saloperie.
Donc, c'est autorisé, ça
Mais parce que l'industrie agroalimentaire, elle est à l'affût de tout segment de marché qui va pouvoir lui permettre d'augmenter ses profits.
Oui, c'est du marketing.
C'est marketing. Donc, par exemple, le sans gluten, à un moment donné, ils ont trouvé que c'était très intéressant de développer le sans gluten. Donc, ils ont poussé l'accent sur le sans gluten parce qu'on vendait plus cher du sans gluten. Donc, la marge était meilleure. Donc, on retrouvait en tête de gondole les produits sans gluten et des gens qui étaient ni intolérants, ni allergiques, ni susceptibles se mettaient à acheter du gluten. Donc, on augmentait la marge. Donc, on ne peut pas distinguer en nutrition, on ne peut pas distinguer la nutrition des modèles économiques.
Donc, Serge nous dit, comment expliquez-vous le nombre de gens qui viennent au resto et sont allergiques au gluten depuis 2 ans ? Ça n'arrête pas.
Maintenant, dès que vous avez un trouble digestif, que ça soit un ballonnement, une constipation, une diarrhée, des gargouillis, en général, le médecin va vous dire... essayez de tester le sans gluten. Et alors, si le sans gluten donne un bon résultat le lendemain, les gens sont persuadés qu'ils sont intolérants ou susceptibles au gluten, et ils vont continuer le sans gluten. Voilà. Et puis en plus, comme il y a beaucoup de publicité autour du sans gluten, les fameuses têtes de gondole dans les supermarchés dont je vous parlais, d'autres personnes qui vont dire que ça marche, les gens vont arrêter le gluten et l'arrêter.
Mais la réalité des vrais allergiques au gluten, elle est de 0,3% de la population.
Alors, les allergiques au gluten, c'est la maladie cœliaque qui en a très très peu, c'est 0,3%. L'intolérance, on commence à y croire, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas le gluten, alors probablement parce qu'il y a un déficit de l'enzyme qui digère le gluten. Et le troisième sujet, c'est la susceptibilité. Bien malin qui saura dire si c'est vrai ou non. En tout cas, le résultat, c'est qu'une grande partie des gens mangent du pain sans gluten. Et hier, j'étais au restaurant et quelqu'un à côté de moi avec qui je mangeais a demandé s'il y avait du pain sans gluten. Le restaurateur lui en a apporté.
Ouais. Mais c'est marketing pour vous, en fait.
Oh, il y a beaucoup de gens qui prennent du sans gluten qui n'auraient pas besoin d'en prendre. Ouais. Voilà. Mais ça ne nous dérange pas, nous, les nutritionnistes, parce que vous pouvez vivre sans gluten. Le paradoxe, c'est que les gens vont vivre sans gluten en ne mangeant plus de pâtes ou de pain, mais en fait ils vont continuer à manger du chocolat, oui, des yaourts à 0%, des produits préparés dans lesquels en fait il y a de l'amidon modifié, ça sera exactement la même chose.
Une petite blague pour notre ami restaurateur, c'est que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux un couple qui va au restaurant, la femme dit moi je mange sans gluten, le mari dit moi sans lactose, et puis la dame dit puis je suis végétarienne, qu'est-ce que je prends? Et le maître d'hôtel répond un taxi.
Oui, parce voilà, que, c'est exactement ça.
Parce que ça devient insupportable.
Mais c'est quelque chose qui est en train d'augmenter.
Mais il y a une obsession quand même, ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est ça ?
Ça s'explique, c'est-à-dire la peur aujourd'hui, il y a une peur qui est véhiculée, qui est globalement... Parce qu'il ne faut pas confondre la peur et le risque. Le risque aujourd'hui en France, il est assez minime concernant les aliments, mais la peur, elle est très forte. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé dans l'histoire. Cette peur, elle est propagée par les réseaux sociaux, par les livres, par également, je peux les me moquer d'eux, tous ces gens qui cherchent du sensationnel, que ça soit certains médecins qui vont porter l'alerte sans savoir si c'est vrai ou non. Et à ce moment-là, la peur, elle a beaucoup plus de chances d'imprégner les gens que le reste. Donc, pour lutter contre cette peur, les gens utilisent des moyens assez simplistes. Je vais acheter que bio parce que j'ai peur, on me dit que les pesticides tuent. Mais peut-être qu'ils ne savent pas si le bio est vraiment du bio, peut-être que les pesticides ne les tuent pas.
Il y a aussi une démarche globale où l'écologie a pris une part plus importante.
Mais c'est pas
la défense
pareil.
De l'environnement. Bah, c'est-à-dire qu'on se dit, les pesticides ne sont pas seulement mauvais pour ma santé à moi, ils sont aussi mauvais pour l'environnement. Mais donc je préfère consommer du bio et soutenir la filière bio.
On est super d'accord. Mais je dis qu'il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre le problème sanitaire et l'écologie. Moi, par exemple, je suis un défenseur de l'écologie, mais je sais qu'en termes sanitaires, je risque peu. Ça veut dire que, par exemple, sur l'affaire des pesticides, la population générale n'est pas autant menacée que la peur qu'elle exprime. Oui. Par contre, les agriculteurs, ceux qui répandent les produits dans les champs et ceux qui travaillent au contact des produits, ben, ils sont super menacés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai phénomène, c'est que le consommateur, maintenant, il est très distant de l'aliment. Avant, vous aviez l'aliment, vous le voyez, vous le touchez, vous le sentez.
Vous aujourd'hui, alliez au marché aussi.
Voilà, vous alliez au marché. Aujourd'hui, l'aliment, il est caché. Il est dans un emballage. La seule vision que vous avez de lui, c'est la photo que vous avez sur l'emballage. Hein, ouais. Et la deuxième chose, c'est que l'emballage lui-même le protège, donc vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a plus de lien entre le consommateur et l'aliment. Donc, le consommateur, il a la trouille.
Moi, je voulais savoir si mieux manger pour les nuls, c'était super simple. En fait, c'est comme j'aime cette publicité et de matraquage. Vous en pensez quoi de ce matraquage marketing? Est-ce que c'est un moyen différent de maigrir ou c'est simplement on devient addict et si on n'a plus les petites boîtes, on reprend du poids?
Alors, je fais ce métier sans vous donner mon âge depuis 30 ans. En 30 ans, j'ai vu tous les 2, 3, 5 ans apparaître à chaque fois un système nouveau qui promet un amaigrissement rapide, garanti, avec une méthode simple et dans un délai de temps raccourci. Bah, comme j'aime, fonctionne exactement sur le même principe. Ne vous prenez pas la tête, on vous livre tout à la maison. Vous mangez ce qu'on vous sert à manger et vous maigrissez. La vraie problématique d'un régime, c'est pas de manger ce qu'on vous dit de manger. La vraie problématique d'un régime, c'est d'arriver à manger ce que vous avez décidé de manger. En l'occurrence, quand vous avez payé 500 euros une boîte, vous fonctionnez également sur ce système-là. C'est-à-dire, j'ai payé tellement cher que je suis obligé de manger ce qu'on m'a servi. Les médecins d'il y a 30 ans faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire, ils tarifaient tellement cher leurs consultations que quand vous alliez les voir, bah, vous étiez obligé de faire ce qu'ils avaient dit parce que sinon, vous aviez l'impression d'avoir gâché de l'argent. C'est un système qui va durer un moment. Jusqu'à temps que les gens, un, reprennent du poids, ce qui est quand même une fatalité dans les régimes si vous ne changez pas de modèle alimentaire. Deuxièmement, quand on aura fait le tour de toute la population qui est tentée. Et troisièmement, quand ils auront compris que les plats préparés, ça nous pose vraiment un problème aujourd'hui. Ouais. Entre les emballages et la qualité de la nourriture qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même assez moyen. Maintenant, moi, mon intérêt, c'est de les laisser prospérer. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin.
Ils vont grossir derrière et ils vont venir vous voir.
D'abord, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a toujours fini sur savoir maigrir par reprendre exactement les mêmes personnes qui avaient consulté tel ou tel système. Ça a été le cas pour Ducamp. Aujourd'hui, ça sera le cas pour Comme J'aime.
Voilà. Alors, dans votre livre, c'est une somme, hein, encore une fois, il y a vraiment.
Oui,
alors,
je vous en
j'ai
donne
bien
pour
aimé
votre argent,
parce
hein, franchement.
Que vous parlez d'activité physique et non plus de sport. Donc,
même,
ce qui me fait,
c'est fait exprès.
Immensément plaisir.
C'est fait exprès.
Et juste une chose, vous parlez des amendes, parce qu'il y a plein de messages qui nous sont envoyés. Donc, on nous a dit 5 fruits et légumes. Maintenant, il ne faut plus manger de fruits et légumes. Maintenant, il faut manger des fruits secs. Et alors, les amandes en particulier, moi, toutes mes copines anorexiques, elles bouffent des amandes en disant c'est bon, c'est des oméga, je ne sais pas quoi. Et alors, j'ai vu que c'était terrible, les amandes, parce
mais
que elles vont manger un yaourt à 0% de matière grasse pour économiser 20 calories, soit l'équivalent d'une demi-amande.
Quel est l'intérêt des amandes? C'est un produit qui est riche en fibres, qui est assez rassasiant et qui est riche en bonne graisse, en oméga 3. Le coup de gueule, il est le suivant, c'est que c'est intéressant sûrement de manger quelques amandes. Le problème, c'est que c'est un produit qui évolue entre 600 et 700 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire exactement à peu près la même chose que le beurre en termes de valeur calorique. Le coup de gueule, c'est quoi? C'est que les gens se sont mis à manger des noix et des amandes depuis 3 ans. L'agence pour l'alimentation a dit « Oui, il faut manger des amandes ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les agences pour elles-mêmes continuent à survivre, sont obligées d'écouter l'opinion collective. Donc, je suis mort de rire. Vous pouvez manger des amandes, mais quand vous êtes au régime, désolé, si vous vous amusez à manger des amandes à tire-larigot, c'est un système que moi, j'utilise pour faire prendre du poids à ceux qui veulent en prendre. Donc, faites attention quand même.
Ouais, parce que c'est de l'huile. Vous avez vu cette vidéo? Parce qu'il y a plein de vidéos aussi sur le web avec des méthodes ou des professeurs qui parlent, par exemple. Moi, j'ai vu, en travaillant sur le dossier, un professeur qui dit « ça y est, on a fait une découverte dans votre estomac ». c'est il faut annuler cette partie, cette j'ai enzyme. Les gélules qui annulent, ouais, cette enzyme.
Si le médicament miracle, je vais laisser Jean-Michel répondre, mais c'est vrai que les médicaments miracles...
Mon vieux patron, Applebaum, tout ce qui contient, je ne sais plus quoi...
Alors, c'est comme les régimes alcalins, quoi. Mon vieux patron Applebaum disait toujours, il y aura toujours autant d'arnaques qu'il y a d'imbéciles sur Terre, donc il y en aura beaucoup. Et c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous n'avez pas la connaissance, quelqu'un est persuasif, vous l'écoutez sans savoir ce qu'il dit est réel ou non. Ces gens-là, en général, surfent soit, pour les plus honnêtes, sur une idée personnelle à eux, leur sentiment, mais leur sentiment n'est pas toujours exact parce que ça ne relève que de leur propre cas, soit... c'est plus pervers, ça veut dire qu'ils ont tendance à envoyer de l'information sensationnelle pour provoquer une adhésion. Ça veut dire que les gens vont les suivre. Et comme aujourd'hui, il y a une espèce de course aux followers sur tous les réseaux sociaux, ça fait ce genre de choses. Et je vois de temps en temps sur YouTube des gars assez originaux qui racontent n'importe quoi. Il y en a un qui disait « apprenez à vivre sans lunettes ». Super, mais bon, c'est un peu compliqué pour traverser dans la rue. Mais le gars disait,
mais c'est pareil pour
un
les
mois
régimes.
Sans lunettes, voilà. Et il a 200 000 personnes qui l'écoutent. Alors, je sais pas s'il y a le nombre de gens qu'il a provoqué et qui se sont fait écraser, mais il y a un moment donné où vous avez un pouvoir de discrimination. Vous devez savoir si le gars qui vous parle, il parle vrai ou s'il parle faux. Donc, s'il parle vrai et si vous sentez qu'il y a de la sincérité dans son discours, après, il vous reste à vérifier si ce qu'il dit est valable ou non. S'il parle faux, non. Et c'est là où j'interviens. Moi, mon cursus fait que, présent depuis 35 ans dans ce métier, médiatisé depuis 20 ans avec... pas beaucoup de problèmes autour de moi, sauf l'histoire où l'Ordre des médecins a été jaloux de mon succès. Donc voilà. Donc je crois que les gens savent que je suis un véritable expert et je suis honnête. D'ailleurs, il y a des fois où je me plante, il y a des fois où je sais pas, donc je le dis. À ce moment-là, ils ont une parole vraie, dans la mesure où les connaissances scientifiques que je donne sont actualisées en permanence, hein, bien sûr.
Voilà, c'était Jean-Michel Cohen avec son livre « Mieux manger pour les nuls » paru aux éditions First. On se retrouve dans un instant avec Miss France, Vaimalama Chavez. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour dans le studio de Sud Radio, les meilleurs moments de l'émission Média. Nous recevions Miss France 2019. Vaimalama Chavez était avec nous. On a reparlé avec elle de son élection et puis de ses premiers jours, de ses premiers mois en tant que Miss France. L'invitée du jour, c'est une invitée de marque, Vaimalama Chavez. Bonjour, Miss France.
Bonjour.
2019, vous êtes avec nous dans le studio, vous nous aviez promis de venir, vous êtes là, vous tenez vos promesses. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Vous êtes belle?
Ça arrive, oui, et puis ce que je préfère, et ils sont nombreux à le dire, c'est que je suis une source d'espoir, donc
pourquoi?
Ça fait super plaisir. Par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai raconté sur la scène, comme quoi j'avais un peu de surpoids auparavant et que avec une forte volonté, beaucoup de sport et beaucoup de légumes, j'ai réussi à atteindre des objectifs physiques qui me permettaient de me sentir mieux dans mon corps.
Je vais donc tenter Mister France.
Vous devriez
essayer. Je vais prendre quelques légumes.
Bah, bien sûr.
Je vais prendre qu'un peu de sport.
De la volonté.
Et puis je vous rendrai hommage dès que j'aurai la couronne.
Rémi,
ah, avec plaisir, bien sûr. Ouais.
Alors, vous participez à beaucoup d'émissions dans les médias, des talk shows, etc. Comment vous abordez ça? Vous êtes surprise, parfois déstabilisée? Comment ça se passe?
Je reste toujours sereine parce que je ne pense pas qu'il faille partir avec des a priori négatifs. Et donc, comme je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, alors on y va et puis après on verra.
Il y a des choses qui vous ont déplu dans certaines émissions ou des
plus des choses qui m'ont surprise que déplu.
C'est-à-dire, il y a des journaux, évidemment, tous les journaux people s'intéressent à vous.
J'ai l'impression que oui.
Oui, vous avez l'impression.
J'ai encore du mal à comprendre pourquoi, mais il me semble que oui.
Parce que vous êtes devenue une personnalité. Donc, il y a des paparazzi qui vous suivent?
Non.
Non,
pas encore. Ou je ne les ai pas encore chopés.
Vous les avez pas encore, ou ils ne vous ont pas encore chopés.
Ou ça aussi, c'est possible.
Alors, on a Stéphanie qui nous dit « Quel bel accent, c'est un grand soleil lorsqu'on entend Miss France ». Voilà.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Voilà.
On n'a pas essayé de vous le faire changer?
Je ne le changerai pas de toute façon.
Alors, moi, j'avais une question par rapport à tous les mouvements féministes, MeToo et autres. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'être Miss France, ça va à l'encontre de tout ça, de, entre guillemets, la beauté, uniquement la beauté?
Pas du tout, parce que ce sont des mouvements qui prônent la libre expression. Et en tant que Miss France, j'ai pris mon droit de m'exprimer et d'affronter une scène et de me dévoiler face à des millions de téléspectateurs. Donc c'est leur droit de manifester pour des choses qu'elles pensent Et je suis d'accord, tout à fait légitime. Et c'est mon droit de me manifester telle que je suis aujourd'hui et d'être à côté de vous aujourd'hui.
Vaïmalama, on a Céline qui nous dit un soleil dans notre matinée pluvieuse, bis de Toulouse.
Un gros bisou à Toulouse.
Voilà, on a beaucoup d'auditeurs à Toulouse. Vous êtes allé déjà dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse également?
Je suis allée à Montpellier le week-end dernier.
D'accord.
C'est dans le sud, hein?
Oui, c'est dans le sud. Vous apprenez la géographie du coup de la métropole.
Et c'est vachement chouette de découvrir comme ça. Hein. Franchement,
oui, c'est bien. C'est mieux qu'à l'école.
Ouais, bah, beaucoup mieux. Mais oui, c'est pas pareil. Quand on le vit vraiment, on intègre mieux les choses.
Vous avez, par rapport à tout ce que tous les mouvements en ce moment en France, bah, depuis votre élection, il y a les gilets jaunes tous les samedis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un point de vue là-dessus, sur tous ces mouvements sociaux qui aboutissent à des violences parfois, mais qui aussi traduisent des revendications et un mal-être de pas mal de gens?
J'ai lu les revendications des gilets jaunes et il y en a en effet certaines que je trouve tout à fait pertinentes. Mais la façon qu'ils ont de s'exprimer n'est pas correcte et irrespectueuse vis-à-vis des personnes qui ont, par exemple, du mobilier qui a été cassé et qui répare régulièrement. Mmh. Ça fait peur aux touristes.
Oui, sur la violence. Oui.
Oui, en fait, oui, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas du tout comment est-ce que je pourrais m'exprimer à ce sujet-là, parce que ça pourrait devenir un débat politique.
Oui, oui. Mais vous comprenez les revendications,
je
mais vous dénoncez les violences.
C'est ça.
Alors, Emma nous dit, elle est juste magnifique, elle a des yeux magnifiques, cette Miss France est extraordinaire. Et Stéphanie dit, je suis bien d'accord. On se retrouve dans un instant avec toujours Vaïmalama Chavez, Miss France 2019, et Bilal Hassani qui était venu la rejoindre dans le studio. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, entre 10h et 11h, les meilleurs moments de l'émission Média. Nous étions avec Miss France 2019, Vaïmalama Chavez. Et elle a été rejointe par Bilal Hassani. Dans le studio, nous avions deux champions. Bilal Hassani qui venait de remporter la sélection pour l'Eurovision. Nous avons avec nous Vaïmalama Chavez, Miss France 2019, et Bilal Hassani. Bonjour, vous nous avez rejoint. Vous êtes le candidat de l'Eurovision pour la France. Vaïmalama, juste quelques questions sur est-ce que vous avez le temps de regarder la télévision?
Non. De toute façon, à un moment, j'ai fait le ménage, puis j'ai débranché des fils qu'il fallait pas débrancher. Je suis incapable de remettre le truc. Donc. Ouais.
Et donc, vous n'avez pas la télévision. Bon.
Non, mais heureusement, j'ai le net, donc ça va. Ouais, je suis pas.
Vous regardez sur l'ordinateur.
Non, et puis même, j'ai découvert Netflix.
Ça, c'est terrible.
C'est horrible. Ouais. Mais on commence un truc et puis ensuite ils nous disent un truc qu'on a aimé, une recommandation qu'on a aimé et tout. Et puis
et
après,
vous regardez des séries du coup?
Vous avez regardé quoi?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez aimé?
Il y en a plein qui sont pas mal du tout. Hein. Mais bon, en ce moment, je suis sur Jane de Virgin.
J'adore.
Bon, Bilal, il regarde aussi. Ouais. Vous êtes aussi fan de Netflix?
Ah, moi, je suis très, très fan de Netflix.
Mais c'est
je suis
terrible.
À fond série. Ah oui, non, c'est dur. Par contre, c'est pas bien. Je me dis, j'ai supprimé l'application à une semaine de la finale. Parce que je me dis, sinon, je vais pas avoir de voix du tout. Je vais être complètement à pas dormir, à enchaîner les épisodes.
Vous regardez quoi sur Netflix?
Alors, bon, j'ai regardé You. Là, c'était
c'était
un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est un sitcom que je trouve super marrant, qui vient de se terminer et je viens de le finir là.
Regardez Sex Education, c'est très, très
j'ai
bien.
J'ai adoré Sex Education, c'était génial.
Bon, on va pas parler que série. Est-ce que vous connaissiez avant de vous rencontrer dans le hall de Sud Radio?
Non, on ne s'est jamais rencontrés.
Et qu'est-ce que vous pensez de Miss France, Bilal?
Très content. Je suis très content, j'étais très content du résultat. Moi, je regarde Miss France, je suis à fond Miss France. Donc, j'étais très, très, très content, j'étais pour toi.
Ouais.
Donc, c'est trop bien. Et j'aime beaucoup le message que je me permets de tutoyer, que tu véhicules, qui est toujours super, super solaire et positif. Et ça, c'est super important.
Mais les gens nous disent effectivement que c'est un soleil qui est avec nous ce matin. Vous avez suivi l'Eurovision, vous aviez eu le temps de voir Destination Eurovision. Vous avez écouté les candidats?
Ben, ce matin, on m'a donné rendez-vous à 9h30, donc je me suis réveillée à 8h30 pour me préparer.
Ah, d'accord.
Et en plus, je ne suis pas branchée sur la télé, donc...
Vous avez déjà vu parfois l'Eurovision? C'est retransmis à Tahiti ou pas du tout?
Je dois avouer que je
n'ai pas trop regardé. Pas trop, vous n'avez pas trop regardé. Mais Bilal, vous
Il faudra verrez. Voir cette année.
Voilà.
Oui, alors, c'est la chanson cool, pas de Bilal ou pas du tout?
Non. Alors j'explique, j'ai pas la radio, j'ai pas la télé. Tout ce qui me reste, c'est les musiques que j'ai déjà téléchargées.
D'accord. Et... mais il faudra télécharger la chanson et tu me diras ce que t'en penses.
Ah oui, avec plaisir.
Alors on a Emma qui nous dit: Bilal, je t'aime trop. Bilal, tu es mon modèle. Bilal est un modèle pour tous, je pense. Voilà. Donc,
merci.
Bon, après, on a un fan de Chimène Badi qui dit: moi, j'aimais bien Chimène Badi.
Moi aussi, j'adorais.
Elle vous aimait beaucoup.
Ah, vous
aussi.
Beaucoup,
ouais. Ah, ouais. Et on l'avait reçue, Chimène, et elle était. Elle aimait aussi beaucoup votre chanson. On va écouter un petit extrait de la chanson de Bilal. Laisse-moi m'envoler. C'est pas mal,
c'est pas l'histoire, mal.
Parce que vous êtes assez musicienne, vous aimez la musique, vous jouez du ukulélé.
Oui, j'aime la musique.
Ouais. Alors vous écoutez quoi? C'est qui votre chanteur préféré ou chanteuse préférée?
C'est moi.
C'est vous. Et ben alors vous allez nous chanter quelque chose
là, en tahitien.
Mais j'aime bien écouter Pepena ou Eto qui sont originaires de Polynésie française. Et j'espère que
on peut les pour les découvrir.
Bah oui, j'espère.
Vous nous chanter un petit truc?
Allez devant Bilal.
Mais j'ai pas mon ukulélé, c'est dommage.
Si j'avais su. Jamais, je peux pas trouver un petit ukulélé.
Non,
un petit son
pas. C'est... Oh, mais non, j'aurais apporté mon ukulélé tahitien.
Ça doit être magnifique de vous entendre chanter avec votre accent.
Juste a cappella, quelques paroles. Allez, on vous écoute.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Une vraie chanson tahitienne.
Non,
ça ne vous vient pas. Alors, il faut vous déplacer avec votre ukulélé la prochaine fois. C'est compliqué. Bilal a évoqué le message que vous avez fait passer au moment de votre élection, c'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, cette perte de poids pour arriver à faire ce concours. Vous continuez à maîtriser, à être très attentive à ce que vous mangez, à votre poids?
Ben oui.
Forcément.
En tant que Miss France,
c'est une obligation.
Oui, parce qu'il faut toujours garder la même image qu'on a véhiculée le soir de l'élection. Mais surtout qu'on nous donne beaucoup à manger, en fait.
Ben oui, c'est ça. Mais oui, parce que si vous allez,
tout le monde
par exemple,
vous faire goûter les produits
dans
l'endroit,
le sud-ouest,
la région où vous allez.
En particulier, il y a toutes les régions de France ont leur mets, mais c'est...
Mais j'en ai entendu beaucoup des spécialités régionales, et du coup, je veux toutes les goûter, mais j'ai aussi entendu beaucoup de choses telles que l'aligot, qui est assez lourd, en fait. Bon, la raclette, spécialité en hiver.
Mais ça, c'est des choses que vous découvrez, en fait.
La raclette, ça va, je connais, je mets ça dans mes pizzas. Ouais. Mais au-delà de ça, l'aligot, je connais pas.
Oui. Mais le cassoulet, vous connaissez?
Parce que me dites pas que vous mangez des pizzas quand même.
Bien sûr.
Ah bon?
Oui.
Et le cassoulet, vous connaissez?
Non, pas encore.
Pas encore.
Vous avez jamais mangé de cassoulet?
Non.
Vous avez trop de chance.
Et du couscous?
Le couscous, oui, si,
quand
on
même.
En fait.
Vous en faites à Tahiti, à peut-être.
Tintin nous dit: merci à Miss France d'être présente, un peu de douceur dans ce monde de brut. Vous apportez, oui, ce que vous disiez au début de l'émission, beaucoup de bonheur aux gens qui sont contents. Alors après, il y en a aussi pour Bilal. Dites à Bilal que je l'aime fort et que je le remercie infiniment pour tout. Voilà, donc ce matin, on a deux personnes qui visiblement suscitent beaucoup de joie, beaucoup de réconfort, et on préfère prendre cet aspect-là des choses. Merci à tous les deux, et on va retrouver Antoine Decaune qui était venu nous parler de la Gaule d'Antoine. On avait bien rigolé avec Antoine. L'invité du jour, c'est le jeune talentueux sémillant Antoine Decaune.
Ben
bonjour.
C'est marrant, bonjour, c'est drôle parce qu'il a exactement la même voix que votre bande-annonce.
À peu près, ça va faire toutes les missions.
Mais viens faire
comme
les bandes-annonces dessus de radio.
Ben avec plaisir.
La Gaule d'Antoine.
Oui, elle est là.
Elle est là, la Gaule.
Vous l'entendez.
On l'entend.
Oui, Monaco, 32 degrés.
Alors, depuis 2017, vous présentez La Gaule d'Antoine. C'est une série documentaire décalée. On vous avait reçu pour en parler, d'ailleurs. C'est l'anti-racine des racines et des ailes, on peut le dire comme ça.
C'est exactement l'opposé. Oui.
C'est l'opposé.
Enfin, on va dire que c'est complémentaire.
Alors, en tout cas, dans cette émission, vous donnez de votre personne.
Toujours.
Ça vous amuse toujours
Ah ben oui,
mais c'est que vous vous amusez, c'est ça qui est bien, c'est que ça se voit.
Oui, non, l'important c'est de raconter des histoires, de s'amuser avec les gens au lieu de s'amuser à leurs dépens, et donc de participer à leur folie, à leur dérèglement. Et donc moi, oui, je suis prêt. Je suis prêt.
Et vos enfants vous regardent dans ces tenues-là, à la télé? Non, pas encore.
Non, c'est pas une émission pour les enfants.
Comment vous les trouvez, ces gens? C'est la question un peu classique et banale, mais c'est vrai qu'ils sont tellement dingues et tellement incroyables qu'on se demande comment vous faites.
On a simplement une équipe, on a un rédacteur en chef, François Gondamin, que je salue au passage. On a des journalistes, Bastien Truchot, ils vont être très contents que les cites, Vincent Saulsoy, voilà.
C'est bien.
Et Peter, évidemment, Peter
Stewart. Peter Stewart, qui est votre vieux compère.
Et puis des gens qui font l'effort d'aller chercher, d'aller regarder, quand c'est en France, dans la PQR, sur Internet, avec des réseaux de gens qu'on connaît. Il faut chercher.
Est-ce qu'ils sont vraiment trash une fois la caméra coupée? Est-ce qu'ils trichent ou c'est vraiment leur caractère? Est-ce qu'ils sont...
Ah non, ils jouent pas. Enfin, ils sont très, très sincèrement dans leur histoire.
Ça vous plaît plus d'être en reportage comme ça, en immersion, entre guillemets, que d'être sur un plateau aujourd'hui?
Ah oui, 100 fois plus, oui. Ouais. Non, l'époque des plateaux est révolue
c'est
pour
fini,
moi.
C'est fini,
j'en ai marre. Là.
Parce que c'est du boulot.
La vie est tétanisée, qu'on ne peut pas parler. Ouais. Non, c'est fini.
Mais, non, mais c'est du boulot. En même temps, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement, d'aller à la rencontre des gens.
Ça change tout. C'est-à-dire que j'inverse le paradigme. Au lieu de faire venir les gens à moi et de les mettre dans une situation inconfortable, je vais vers eux, dans leur biotope, dans leur environnement.
Et c'est vrai qu'on sent que vous êtes heureux de faire ça, et c'est qui fait aussi le plaisir qu'on a à regarder vraiment. Vous regardez quoi, vous, à la télé? Vous la regardez ou pas?
Je regarde pas beaucoup, mais je regarde, oui. Je regarde qu'est-ce que je regarde? Je regarde le Burger Quiz. Je regarde l'émission de Karim Rissouli le dimanche sur la 5. Je regarde 21 cm de Trapenard, que je trouve excellente. Des petites choses à droite, à gauche comme ça, puis beaucoup de séries.
Ça vous rappelle pas le Grand Journal Quotidien? C'est pas dans la même famille?
Alors c'est pas le bon horaire pour moi, parce que c'est je finis de travailler à cette heure-là, je rentre, donc j'ai pas le réflexe, mais oui, c'est là, on est dans l'humeur Grand Journal.
Et les séries? Vous êtes un fan de séries?
Ah oui.
Alors dites-nous votre top 3 des séries.
Le top du top, ça reste Les Sopranos. Les Sopranos, c'est la matrice du genre. Ensuite, il y a une série que j'adore, qui est hélas méconnue, qui s'appelle Ray Donovan.
C'est très bien. Parce qu'il a un petit côté, justement...
Qui est remarquable en écriture. Faut avoir un petit moral quand on y va. Et puis, qu'est-ce que je regarde? Là, je suis en train de regarder la méthode Kaminsky.
Ah, ça, j'ai pas vu, Valérie.
Non plus.
Avec Michael Douglas. Qui est une série un peu senior, on va dire. Mais...
c'est notre
âme. Mais passionnante. Je suis très, très à l'affût de ça.
Et vous auriez pas envie, donc vous l'avez dit, les plateaux, c'est fini, pas envie de revenir à la télé pour une émission ou...
Non, j'ai envie de... D'abord, j'ai envie de terminer cette collection, parce qu'on en a pas fini avec la Gaule. Et puis, de la même manière qu'on a fait une excursion à Londres, on peut aller en Allemagne
ou les Belges.
Ouais, on peut aller en Bruxelles. Et puis il y a la francophonie, il y a l'Afrique, il y a le Canada, il y a les Dom-Toms, il y a la Polynésie.
Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il y a du pain sur la planche. Et puis après, pourquoi pas revenir à la fiction.
Comme comédien.
Comme réalisateur. Cinéma.
Oui. Réalisateur. Il y a un moment où il faut renoncer à l'image, peut-être.
Il y a un projet.
Épargnez ça.
Il y a un projet.
Il
y a un projet dans ma tête.
Projet un petit peu avancé. Non,
je peux pas vous en parler.
On peut pas en parler, mais projet.
J'ai un projet dans ma tête.
Moi, je voulais savoir, il y a quand même une information essentielle. Il y a une pétition essentielle qui a été lancée pour que Alain Chabat et Gérard Darmon redansent la carioca à Cannes pour les 25 ans de la Cité de la Peur. C'en est où?
Ça en est à 35 000 signatures, entre 35 et 40. C'est un garçon qui signe stagiaire des affiches sur Twitter, qui a ouvert un compte qui est très très drôle, où il commente et parodie des affiches de cinéma. Il a lancé ça comme une connerie. Nous, on l'a repris au vol le jour où on recevait Gérard Darmon, qui a dit « mais jamais de la vie ». Et du coup, c'est parti comme une fusée.
Il va être obligé de le faire.
Et il n'est pas impossible qu'il soit obligé de le faire, ce qui m'amuse beaucoup.
Merci Antoine Decaune, c'est la chanteuse Elena Noguera qui était venue nous rendre visite sur Sud Radio pour nous parler de son rôle dans un téléfilm sur France 3, mais avec elle on avait évoqué sa carrière de chanteuse, ses envies, bref, toute son actualité.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi, on retrouve Elena Noguera et puis dans un instant également Bruno Solo. L'invité du jour, c'est Elena Noguera, chanteuse, comédienne, artiste complète. Bonjour Elena Noguera, merci d'être avec nous.
Merci.
Alors figurez-vous que quand on cherche votre nom sur Internet, eh bien vous arrivez avant Elena Bonham Carter, avant Elena Rubinstein, avant Elena Christensen, avant plein d'Elena.
C'est
donc,
nouveau.
C'était
pas le cas.
C'était pas le cas. Vous aviez déjà regardé?
Oui, il y a longtemps, je crois, puisque c'était pas le cas. Je pense que c'était Bonham Carter. Kartner
qui arrive en tête. Et ben non, là vous êtes arrivé en tête, en tout cas sur mon truc, sur mon Google à moi, hein, comme quoi le temps.
Le temps est notre ami.
Et puis après, parmi les recherches qu'on fait le plus vous concernant, c'est Elena Noguera fils. Donc on cherche, voilà. Génial. Donc il fait quoi votre fils?
Il est guitariste de qualité.
Oui.
Et mais j'avais prédit ça quand j'étais, j'allais dire gamine, mais oui, mais je l'ai eu très tôt. Et j'avais prédit, j'ai été sœur de. Femme de, je serai mère de.
Merde.
Et ça me faisait rire parce qu'il y avait merde dedans.
Merde, voilà.
Et je me disais, ça va très mal finir.
Voilà. Merde de musicien. Ouais. Après, il y a âge, vous ne vous en cachez pas.
Non,
après,
49, bientôt 50.
Taille. Ne me demandez pas pourquoi.
179.
Vous êtes
grande,
en tout cas.
Oui, couple, donc...
Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Pas, en ce moment, non. Il n'y a personne. Mais
Film et chansons. Et moi, je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup la chanteuse Elena Noguera.
Merci.
Dans notre famille, on vous aime beaucoup. Voilà.
Ah, c'est
donc,
chouette.
On va réécouter, tiens, les Parisiennes. Vous avez été en tournée avec... alors, vous étiez quatre. Ariel Dombal.
Ina Modja. Maréva Galanter.
Voilà, Maréva Galanter. Écoutez.
Est-ce qu'on est belle?
Chouette.
C'était marrant, c'était une reprise.
C'était super.
Ouais. Laurent Ruquier, producteur.
Voilà, une reprise des Parisiennes qui était un groupe yéyé dans les années fin 60, 68, 72. Elles ont fait plusieurs disques produits et composés souvent par Claude Bolling. Mm. Et Laurent adorait ça.
Mais c'était très joyeux et très chouette. Moi, j'avais vu le spectacle. Il y a un disque ou pas qui a été...
Il y a un disque qui a été fait, ouais. Et c'était une magnifique année en compagnie de ses copines, ouais.
Donc, chanteuse, comédienne, c'est... selon le feeling?
Ben oui, après, quand je veux, choisir, c'est un peu parfois je veux, parfois je peux, parfois je peux pas, parfois je veux pas.
Ouais. Alors vous dites dans beaucoup d'interviews, j'ai lu que vous aviez eu un peu de retrait avant de vous mettre à la chanson. Vous osiez pas aller sur le terrain de votre sœur. J'ai trouvé ça assez étonnant. Ah non, c'est pas...
Si, mais en fait, c'était pas au tout début. C'est vrai que quand elle a commencé à chanter, moi j'avais 10 ans. Et puis moi, je me voyais plutôt comédienne. Donc j'ai tenté d'être comédienne. Je devais jouer très très mal. Je pense que j'avais une énorme timidité. J'avais du mal à vraiment interpréter quelque chose de convaincant pendant les essais. Parce que j'ai commencé très tôt. Je pense que mes premiers essais, c'était avec Doyon. J'avais 15 ans pour La fille de 15 ans. Et j'étais vraiment mauvaise. Et c'était Romain Brémond, qui était un grand directeur de casting à l'époque, qui maintenant est producteur. Et il m'avait dit, mais tu joues très très mal. Je dis, ah d'accord. Donc j'étais un peu, c'était très compliqué.
Motivant, ouais.
Voilà, donc à 15 ans, vouloir être comédienne, c'est compliqué. Donc effectivement, après j'étais mannequin, et puis je voulais pas chanter particulièrement, et puis j'étais pas bien dans ma peau comme mannequin, ça me faisait chier.
À cause
chier.
De votre sœur.
Et voilà. Et ma sœur, non, c'était pas... Je me voyais comme comédienne, et puis ma sœur m'a prise comme choriste, et puis ils se sont rendus compte que je chantais bien. Et donc je me suis mise à la guitare, et puis j'ai commencé à composer, et la musique est venue un peu... malgré moi, et finalement est resté ce que je préfère. Donc peut-être qu'il y avait un complexe caché ou que je n'assumais pas.
Est-ce que c'est dur d'avoir une sœur connue?
Ça a ses difficultés, oui. C'est vrai, quand vous avez 10 ans et que vous vous construisez et puis que vous êtes que la sœur de Lio, l'ombre, le bout d'un autre, vous vous sentez comme le bras, l'extension de quelqu'un, et puis votre propre identité a du mal à naître, donc vous voulez tout sauf être elle. Donc effectivement, vous essayez de vous bâtir autrement.
Sauf que vous avez réussi, vous avez réussi à avoir votre identité.
Oui, les années passent.
Les années passent et vous existez. Ouais,
30 ans
quand même.
Après, tant mieux. Oui,
vous avez aussi fait de la télé.
Oui, j'ai été animatrice
sur Paris
télé.
Première.
Sur M6, j'ai commencé.
Et sur M6 aussi.
Oui, Paris Première, TMC.
Valérie, on parlait tout à l'heure dans son lancement avant la publicité, il vous demandait si c'est plus compliqué d'être une femme de 50 ans au cinéma et la télévision permet d'avoir des rôles que le cinéma n'offre plus. Vous avez ce regard-là aussi?
Oui, mais c'est pas une question de regard. Je pense que c'est factuel. Je pense que si on étudie les choses, je pense qu'effectivement la télévision permet, et depuis longtemps, aux femmes... et d'avoir des rôles plus conséquents aussi sur la longueur, c'est-à-dire que
Virginie Lemoine aussi dans la série d'adoption sur
oui, je pense que vraiment il y a, et en Amérique aussi, la télé a souvent offert des rôles plus conséquents aux femmes. Ben je sais pas, après il doit y avoir des raisons commerciales puisque tout est commerce finalement, Mais effectivement, au cinéma, il y a effectivement, après, je pense que Isabelle Huppert ou Karine Viard ne souffrent pas de quelque chose qui va leur paraître abstrait si on leur en parle. Elles sont en dehors de toute problématique.
Oui. Mais enfin, pas Karine Viard, mais Isabelle Huppert a plus de 50 ans et on lui fait jouer des rôles de femmes de 50 ans. C'est-à-dire que
oui, aussi. Mais de toute façon, on joue toujours. Je joue plus jeune. Ouais. On joue toujours plus jeune que soi. Ça peut arriver qu'on joue plus vieux. Mais
c'est un peu plus rare, surtout pour les femmes.
Oui, mais les femmes, mais c'est pas que le cinéma. Être une femme, c'est difficile dans le monde en général, et vieillir aussi. Et pour les femmes en général, on n'est pas moins bien lotis parce qu'on est comédienne. On est sous la lumière et c'est visible. Et donc on en parle et on essaye d'amener avec nous une pensée plus générale et qui s'occuperait de toutes les femmes du monde. Mmh.
Vous regardez quoi, la télé, vous? Pardon, Rémi, vous aviez une question?
Ah, je voulais parler. Ouais. Ouais. Je voulais vous demander
ça.
Qu'est-ce que vous regardez à la télé?
Je suis un peu comme toutes les nouvelles générations. Je regarde des
Netflix.
Oui, voilà. Et puis après, séries. À la télé, si, j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai une passion, sans cynisme et sans moquerie et sans second degré, mais pour L'Amour est dans le Pré.
Ah oui? Oui, ça c'est un peu l'émission.
Vous avez écrit des agriculteurs?
Non, mais des fois ça me fait rêver. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi j'irais pas
Ça vous tente un peu une vie comme ça à la ferme avec les tracteurs et tous les matins
s'occuper des... Je pense comme beaucoup de femmes qui écrivent, sauf qu'après elles se rendent compte dans le concret, dans le réel, que ça n'ira pas. Ouais. Mais c'est comme tout, hein, quand vous rêvez d'un homme, souvent vous rendez compte que dans le concret, ça n'ira pas. Donc oui, ça peut m'arriver de fantasmer sur un
des agriculteurs. Voilà.
Un des protagonistes.
C'est l'émission que vous regardez, pas en cachette, mais...
Ah non, pas du tout, mais j'ai aimé Sous le soleil, beaucoup.
Ah oui. Moi aussi, j'aimais beaucoup. Plus belle la vie, non, vous ne regardez pas?
Plus belle la vie, non, j'ai pas accroché. Mais il suffit d'y se mettre.
Vous vous souvenez de votre première télé, à vous, la première fois que vous êtes passée à la télé?
Oui, alors parfois je suis passée comme ça par hasard avec ma frangine, mais ma première télé à moi, Elena Noguera, c'était un baptême fantastique. J'ai chanté mon premier disque en 1989 qui s'appelait Lunettes Noires devant les nuls au complet. Oula. Bruno Carrette, dans le Grand Journal, et je tremblais et j'étais, je crois, mignonne comme les jeunes filles de 18 ans. Quoi.
Et ils ont été sympas avec vous?
Très, j'avais très peur d'eux. Ils étaient comme ça, et je me souviens de Chantal Lobby. Et puis maintenant, les années passent et je les côtoie toujours et je les vois. Et c'est vraiment... Je pense qu'ils ne le savent même pas, mais mes parrains de cœur... Si, Dominique Farrougiel est devenu pour de vrai après. Il a produit ma première pièce que j'ai écrite pour le théâtre c'est ma fée, moi je l'appelle mon fée.
Mon fée,
c'est Dominique Farrougiel.
Et vous regardez les talk-shows maintenant qui ont un peu remplacé, c'est-à-dire que ce soit Touche pas à mon poste, Quotidien, c'est un peu les nouvelles émissions
Quotidien, je regarde, ça m'arrive de regarder Quotidien. J'ai regardé, le Grand Journal très longtemps. Je regarde Ruquier, j'aime bien.
Et vous aimeriez réanimer une émission à la télévision?
Oui, parfois ça m'arrive d'y
penser.
Mais
de faire quoi? Pour faire quoi?
Mais alors, il n'y a pas ce que j'aimerais...
Justement.
Oui, il n'y a pas...
C'est quoi?
Je ne sais pas, j'avais imaginé, par exemple, j'aurais aimé présenter une émission que j'aurais appelée La Ronde, comme le film de Max Ophuls, en prenant un invité de départ, vedette éventuellement, et de voir et de lui demander, lui, d'inviter quelqu'un qui invite quelqu'un, qui invite quelqu'un, qui invite quelqu'un, voir à la fin où est-ce qu'on arrive, au dixième invité, et si le dixième invité a un lien avec lui, si on arrive, on prend même Chantal Goya, est-ce qu'on arrive à un trompettiste jazz et qu'on a fait un voyage qu'on n'imagine pas en partant d'une personne.
C'est une belle idée.
Voilà.
C'est
un beau concept,
belle idée.
Gilles qui est producteur, va vous produire.
C'est une très belle idée, c'est une vraie belle idée.
Voilà. Voilà, c'était Elena Noguera. Et maintenant, on va retrouver Bruno Solo qui va nous parler de sa carrière, de ses envies, de ses tournages, de ses projets. Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes rare parce que vous êtes toujours par Mons et par Vaux en tournage. Ça veut dire que ça marche bien pour vous. Vous êtes au théâtre, vous tournez pour la télévision. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte un rôle ou un autre? C'est quoi? C'est la lecture du scénario? Parce qu'on doit vous en proposer beaucoup.
Alors, je vais être très honnête, on m'en propose pas mal effectivement en télévision et au théâtre, même si c'est pas le même mot pour le théâtre. On dit pas scénario, mais on dit la pièce tout simplement. Pour le cinéma, un petit peu moins. Ça y est, ça revient. J'aurai l'occasion de vous en parler dans l'émission si l'occasion m'en est donnée. Mais
Mais c'est vrai qu'on accepte, la condition sine qua non, déjà, c'est d'accrocher à l'histoire. Ouais. Et après, trouver que son personnage puisse faire palpiter ou palpiter pour ce personnage dans l'histoire. Puis après, il y a la rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice en qui vous avez confiance, qui vous donne le sentiment qu'il peut vous amener là où vous l'espérez des fois, ouais. Ou vous surprendre.
C'est incroyable quand même le parcours que vous avez fait. Vous imaginiez vous retrouver au théâtre, ces films, parce que au départ, vous étiez deux blagueurs qui foutiez un peu le bordel à Europe 1.
En fait, vous étiez dans le public d'Ardisson, non ? C'est bien ça, l'histoire de base. Vous étiez dans le public d'Ardisson.
J'étais dans le public pour gagner un petit peu d'argent, parce qu'il y a une époque où on payait un petit peu les publics. C'était de la figuration quasiment. Ça existe encore, mais de manière plus ponctuelle. Et voilà, et j'étais repéré par Thierry Ardisson et Yvan Le Bolloc, qui m'ont proposé de faire une chronique régulière avec eux. Et de là, de fil en aiguille, j'étais repéré avec le Top 50.
Avant. Le Top 50, ouais.
Et voilà, on a remplacé Marc Toesca, et puis après le Plein de Super, et puis voilà, la suite. Mais c'est vrai que non, j'imaginais pas, parce que j'ai une manière de fonctionner qui est plutôt intuitive. Je suis passionné de philosophie. La philosophie, par définition, se sert du passé, mais vit le présent et n'offense pas le futur. Donc, moi, je ne présageais de rien. Maintenant, je suis un peu plus installé. Intellectuellement, je me suis un peu embourgeoisé dans l'idée que, effectivement, j'ai quand même le sentiment d'avoir construit des choses. Mais au début, il y avait vraiment une sorte de spontanéité, de sincérité. Et puis, on verra bien demain, quoi. Je ne me posais pas ce genre de questions. J'étais très carpe diem. Maintenant, je le suis peut-être
un peu plus. Vous jouez pas mal dans des polars?
Ouais, j'en
c'est un
beaucoup,
hasard
ouais.
Ou pas c'est, vous aimez bien les rôles de flics?
Bah, à un moment, c'est pas nécessairement que j'aime les rôles de flics, mais vous savez, dans les polars, il y a ou le flic ou le voyou.
Oui, hein. Visiblement, vous avez plus
ou
une tête
victime.
De flic. Ou
la mais victime, elle disparaît très, très vite, tôt, ouais. Donc j'aime autant rester le plus longtemps possible.
Oui, Rémi.
Ouais, juste une question à propos de Caméra Café, donc ça remonte à une quinzaine d'années à peu près. Et alors, dans Caméra Café, bon, formidable, il y avait quand même le personnage d'Yvan Le Bolloc, il était extrêmement macho. Aujourd'hui, vous pensez que vous pourriez encore tourner de la même façon?
Si on nous en donnait la possibilité, en tout cas, nous ne changerons rien parce qu'en fait, nous, la force de Caméra Café, l'une des forces de Caméra Café, indépendamment de son succès, c'était que justement, on voulait caractériser des personnages de manière un peu outrancière, comme le faisaient les comédies italiennes, pour en montrer les travers, au travers justement de leur turpitude, de leur bassesse. On y voyait aussi les failles d'hommes et de femmes, etc.
On a l'impression que le politiquement correct traque tout petit écart.
Attends, ça, faut pas exagérer. Non, le politiquement correct a peut-être un peu lissé certaines choses, mais on peut encore dans ce pays et à travers l'humour s'exprimer de manière extrêmement forte et voire violente. Mais après, maintenant, ce qu'il y a, c'est que le relais autour de certaines blagues est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était à notre époque. Ouais. Et maintenant, effectivement, tout est décortiqué, analysé par les haters ou même par certains journalistes ou même dans la rue, on vous fait des reproches. Bon, peu importe, mais il faut savoir s'adapter. Et à l'époque, moi, je fuis un peu les réseaux sociaux, mais j'ai conscience qu'ils existent et donc je ne fais pas comme je ne ferme pas les yeux et pour autant ben, je ne participe pas au truc et je me suis retrouvé au sein de polémiques qui n'ont pas été bien plus loin parce que je ne les ai même pas relevées ou même je les apprenais par la bande. Voilà, donc je pense que non, on pourrait encore faire Caméra Café. Il y a deux, trois choses effectivement qu'on nous mettrait un peu plus dans la face qu'on nous l'avait fait à l'époque.
Mais ça,
parce qu'à l'époque
c'est curieux
du
parce que ça dépend, comme vous dites, ça dépend vraiment des endroits. Si on pense à Laurent Ruquier où il y a des blagues qui sont tout à fait
sur scène. Moi, j'étais président j'étais dans le jury.
Georges Gardin.
Tout à fait. Voilà, j'étais dans le jury, pas président, pardon, c'était Isabelle Roche, mais j'étais jury au festival de Saint-Gervais, là, week-end dernier, qui est un festival de spectacles vivants où de nouveaux comiques hommes et femmes émergent. Je peux vous assurer, pardon, que j'ai entendu des choses d'une violence, d'une pertinence d'ailleurs, et d'une outrance formidable. Et je me réjouis de savoir qu'on peut encore le faire. On le fait un peu plus à ses risques et périls qu'on ne l'a fait. Donc, il va falloir s'armer d'un courage, mais la société telle qu'elle est, de toute façon, demande plus de courage.
Plus de courage,
et de bravitude, comme disait l'autre.
Moi, j'ai vu Bruno Solo réaliser des Caméras Café. Vous étiez très dur, d'ailleurs. Deux visages entre le réalisateur et l'acteur, même avec Yvan. Hein, vous étiez parfois...
Avec Yvan, il faut le tenir.
Très carré,
c'est un cheval fou, et j'aime autant vous dire qu'il faut le tenir. Moi, j'ai une rigueur un peu... C'est surprenant par rapport à l'éducation que j'ai reçue, mais un peu militaire. Et lui, c'est le bohémien, c'est le gitan, c'est le joueur de guitare.
Et vous n'avez pas envie de réaliser
qu'est-ce que je suis caricatural.
De réaliser des téléfilms, de se
mettre à la
réalisation.
Je réalise pas mal de pubs et tout. Après, c'est une question de temps. Je me suis beaucoup consacré au théâtre
pubs,
et à la production.
Pas que vous aviez
fait j'en réalise une bientôt. Là.
C'est vrai.
Mais je pense que la prochaine étape que j'ai envie de suivre, c'est plutôt de la mise en scène de théâtre. Parce que là, fondamentalement, si on. on nous oblige à choisir qu'un seul métier, on nous dit il faut choisir maintenant, vous n'avez pas le droit au cumul des mandats, et que je devais en choisir un, je choisirais acteur, et à l'intérieur du métier d'acteur, je choisirais, le théâtre. Mais, non, le théâtre.
Le théâtre.
Plus que tout.
Et pourtant, vous parliez cinéma tout à l'heure.
Oui, parce que le cinéma, j'en ai pas fait pendant un moment, parce que celui que j'avais envie de faire, on me le proposait pas, et celui que j'ai envie qu'on me propose, ben, je le voyais se faire sans moi.
Et c'était quoi?
Bah, plein de films que j'adore, voilà. Et puis les films que j'aimais moins, mais que j'ai su, parce que j'avais ce confort qui me permettait de les refuser, que j'ai su refuser, ou j'ai su, ou j'ai pu plutôt.
Ouais. Mais là, on va vous revoir au cinéma?
Oui, là, je suis sur un très joli projet de Martine. Vous savez, Martine à la plage?
À la plage.
Non. Voilà, Philippe Mule va réaliser un film sur Martine avec une jeune fille.
Vous jouez quoi, Patapouf?
Non, j'aurais bien aimé jouer Patapouf, mais voilà, je ne le suis plus suffisamment Patapouf. Voilà, il aurait fallu que je fasse un lévrier plus.
Voilà, vous êtes beaucoup plus. Oui,
je suis rassé maintenant avec
Svelte,
l'âge. Je me suis rassé. Non, je vais jouer le papa de Martine.
Ah, le papa de Martine, c'est rigolo ça. Ah, c'est marrant, c'est un projet.
Mais en plus revu au goût du jour, c'est une très belle idée parce que c'est une fable écologique. Et responsable et très belle. Et je pense qu'effectivement, l'évolution logique du personnage de Martine aurait été effectivement vers le sentiment d'être sur une planète qu'on mettait en danger, qu'il fallait aider. On sent ça chez Martine de manière
un peu instinctive.
Même si effectivement, on est dans une France un petit peu idéalisée, un peu pastel. Mais il y a un charme indéniable qu'on peut refuser. Même si après. Quelques féministes pourraient trouver que les rôles sont peut-être il y a un déterminisme.
Ça date d'il y a 40 ans.
Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà, maintenant, on y verrait ces choses-là. Laissons les choses se faire aussi. Et je pense qu'après, c'est à l'aune de notre époque qu'il faut regarder aussi Martine.
Alors vous regardez quoi, la télé ? Vous regardez quoi, la télé ?
Je regarde des films, beaucoup. Je regarde du sport. Je regarde beaucoup de documentaires. Et j'en ai vu un il n'y a pas longtemps qui s'appelle La Bataille de l'Acier sur une chaîne qui s'appelle Public Sénat et que j'ai trouvé juste un des plus remarquables films sociétals que j'ai vu de toute ma vie.
Qu'est-ce qui vous fait zapper à la télé ?
Ce qui me fait zapper, c'est une certaine médiocrité. Vous savez, Alain, le philosophe, disait « Méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable. Estimez-le, il s'élèvera. » Quand j'ai l'impression qu'on me méprise, donc qu'on nous méprise, qu'on nous tire vers le bas, en nous faisant croire que ce que nous voyons est essentiel et que, comme dit Blanche Gardin, on se vide la tête. Mais d'où, comme elle dit, d'où se vider la tête est un exercice intéressant. Non, se remplir la tête, après faire le tri, faire des mélanges et tout, mais se vider la tête, bon voilà. Donc quand j'ai l'impression un peu qu'on me prend pour un crétin ou que j'ai l'impression qu'on humilie ce que je suis en train, les protagonistes que je suis en train de regarder, j'ai une gêne qui s'installe alors qu'ils ne me voient pas, a priori.
Ah, vous
je
ne
crois pas
que
les spectateurs nous voient en train de regarder.
Donc là,
je zappe, oui.
Vous n'avez pas abandonné vos combats, vous avez toujours été un peu militant.
Mais les on ne peut pas jaunes, abandonner ses combats, changer, on n'a pas le droit d'abandonner ses combats.
Les Gilets jaunes, vous avez une sympathie pour le mouvement
J'ai eu une sympathie absolument pour le mouvement, philosophiquement et intrinsèquement, bien entendu. Comment ne pas avoir une sympathie pour des gens qui tout d'un coup, enfin une sympathie, empathie pour des gens qui vous disent « je n'ai plus rien, c'est plus possible de vivre dans ces conditions-là. » Après, les récupérations, les dérives, certains discours de gilets jaunes qui viraient sur le orange, sur le rouge, sur le noir ou sur des couleurs, à mon goût...
Mais le mouvement de base est un mouvement qui vous a touché, évidemment.
Évidemment. Enfin, mon père, qui était ouvrier dans le bâtiment, aurait été évidemment solidaire. Après, mon père, qui était un homme lucide sur le monde tel qu'il était et qui croyait au peuple un peu moins à la foule, aurait été un peu plus prudent. Et moi, je préfère l'être aussi, mais je sais où je suis et j'ai pas besoin nécessairement tout le temps de le rappeler. Et ceux qui m'aiment savent qui je suis aussi.
Merci à Bruno Solo. On se retrouve, nous, dans quelques instants. À 11h, on va parler des sondages, un sujet qui vous fait beaucoup réagir, un sujet polémique. Comment sont faits les sondages? Est-ce qu'on peut les croire? À tout de suite sur Sud Radio.